franceinter.fr.
La différence maintenant, c'est Sonia De Villers à 9h11,
c'est
Le
moi
Grand Bain.
La différence
Bain.
À moi toute seule.
Mais si, bien sûr. Bonjour Sonia.
Bonjour. Vous êtes là donc en chair et en os dans mon studio.
Absolument. Ouais. Internet qui a changé nos relations aux autres, c'est vrai, oui, sans doute. Et pourtant, la solitude existe. Hein.
Ouais, ouais.
Elle est plus présente que jamais, malgré les réseaux sociaux. Enfin, je ne veux pas vous faire à votre émission. Hein. Je vais vous laisser.
Vous allez repartir seule.
Absolument. Dormir un peu. À demain.
Demain. Bonjour à tous, c'est reparti pour une semaine de Grand Bain. Chers auditeurs, me voici m'adressant à vous par le biais d'un poste de radio. Alors oui, chaque animateur a sa personnalité, mais tous, ici, à France Inter et ailleurs, nous adoptons les usages propres à notre média. Il n'en serait pas de même si vous lisiez ma newsletter, mon blog, ou si vous étiez de mes amis sur Facebook, ou même si vous me suiviez sur Twitter. Nos rapports ont changé par le biais de cette technologie. Les règles du vivre ensemble ne sont plus les mêmes. Le ton, les mots, les formules se sont modifiés. L'écoute et le regard de ceux à qui on s'adresse prennent une nouvelle dimension. Moi et les autres à l'ère du numérique, c'est le sujet de notre piscine du jour.
Il est bien supportable. L'appareil avec lequel tu peux joindre tout le monde quand tu veux si tu as envie. Et tout le monde y peut joindre quand il veut, même si tu n'as pas envie. Il n'y a plus de politesse avec la technologie. D'ailleurs, les gens ils disent même plus bonjour dans le portable. Ils disent allô et après, tu es haut. Mais qu'est-ce que tu t'en fous, je suis haut. Tu as besoin de m'imaginer pour savoir comment tu vas me parler ou quoi? De temps en temps, je l'éteins le portable parce que des fois, il me monte à la tête. J'en ai marre. Et même quand je l'éteins, les gens, de toute façon, ils peuvent me laisser les messages dans la messagerie, la boîte vocale. Ah, elle est bien, cette boîte vocale. Ma parole, des fois, j'aimerais l'avoir en vrai, pas rien que dans le téléphone. Avec les gens, j'aimerais avoir une boîte vocale, des fois. Quand je rentre à la maison fatigué, stressé, énervé, que ma femme, elle continue encore avec « Va faire ça, regarde ça, et rien, regarde, celui-là, là-bas, viens, reviens. » Il y a des jours, ma parole, j'aimerais lui dire « Chérie, je suis pas là pour le moment. » Laisse-moi un message, je te réponds tout à l'heure, s'il te plaît.
À réécouter absolument les jours où Orange bug, où vous êtes privé de portable et où vous êtes privé de messagerie. En attendant, je vous rassure, le désarroi du grand-père de Gad Elmaleh, vous l'avez sûrement reconnu devant le téléphone portable, c'est un peu le mien devant un compte Twitter. Bonjour Stéphane Hugon.
Bonjour.
Vous êtes notre invité aujourd'hui. Alors vous, vous faites votre miel de ces mutations à la fois technologiques et sociologiques. Vous êtes, pour vous présenter rapidement, chercheur au CEA, qui est le centre d'études sur l'actuel et le quotidien à l'université de Paris 5. Et puis vous êtes également fondateur de l'Institut Eranos. Je me demandais, Stéphane, d'où vient cette formule que j'ai retrouvée pas mal en préparant cette émission ? L'ère de l'index a été remplacée par l'ère du pouce. Je la trouve vraiment très très jolie. Elle est de vous ?
Alors, probablement, ou peut-être pas. En tout cas, je l'ai beaucoup reprise. Oui, c'est un bon, j'allais dire, un bon index, un bon indicateur, ce glissement qu'il y a entre, on pourrait dire, une culture du pouce et une culture de l'index.
Alors, la culture de l'index, c'est quoi ?
Alors, la culture de l'index, c'est la culture du pouvoir, c'est la culture patriarcale. Ouais. L'index, c'est indiquer, c'est dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et d'une certaine manière, c'est la posture de celui qui tranche. Voilà, une posture très patriarcale, très rationnelle. C'est la posture du droit.
Et le pouce ?
Et le pouce, c'est très intéressant parce qu'on sent qu'il y a un imaginaire beaucoup plus régressif, quelque chose qui est de l'ordre de l'enfant, quelque chose qui suggère une posture différente du corps par
Donc
rapport à la chose.
Donc c'est un peu nous aujourd'hui avec les smartphones, c'est ça ?
Exactement, exactement. On serait passé d'une société très adulte et très rationnelle à une société beaucoup plus affective et beaucoup plus infantilisée.
Voilà, donc très verticale d'un côté, très horizontale de l'autre. On va en parler, nos rapports les uns envers les autres ont changé. Alors, nous ne sommes pas seuls, Stéphane Hugon. Au rendez-vous du lundi, nous avons nos deux chroniqueurs médias, Jean-Sébastien Zanqui, bonjour.
Bonjour Sonia.
Alors vous, vous êtes journaliste donc à la rédaction de Métro, qui est notre partenaire chaque semaine. Jean-Sébastien, Stéphane Hugon, je vous le présente, c'est notre archéologue de la twittosphère. Donc, comme toutes les semaines, voilà, il nous propose une énigme à résoudre cette semaine, Jean-Sébastien.
Cette semaine, c'est un énigme, c'est un tweet qui parle de Happy Father's Day.
Happy Father's Day.
Joyeuse fête des pères.
Mm-hmm. On n'est pas chez les Le Pen.
Non, pas du tout.
On ne parle pas en anglais chez les Le Pen. Famille, je vous aime. Réponse tout à l'heure, donc vous nous en direz plus. Didier Siamour, vous êtes là aussi. Bonjour.
Bonjour Sonia.
Alors avec vous, on va feuilleter l'actualité des médias cette semaine avec deux gros bugs.
Ouais.
Pas de journaux jeudi, pas de texto vendredi.
Jeudi dernier, c'est une journée sans quotidiens nationaux et puis pas de téléphone vendredi pour plus de 25 millions d'utilisateurs, ceux qui étaient chez Orange.
Ça fait beaucoup. Et puis viendra petit à petit l'heure de JB Pontalis, psychanalyste, qui a commencé par nous parler la semaine dernière de ses chiens et puis qui tout doucement se rapproche du temps où il a rencontré Sartre et Merleau-Ponty. Something good can work. Voilà une bonne maxime pour démarrer la semaine sur France Inter en ce lundi matin. C'est celle d'un jeune groupe irlandais, Two Door Cinema Club. Voilà un drôle de nom pour un groupe. Nous sommes en compagnie, je vous le disais, du sociologue Stéphane Hugon, qui est donc chercheur au CEAC et puis fondateur de l'Institut Eranos. Ma première remarque est celle-ci, Stéphane Hugon, puisque nous allons parler de moi et des autres, de nous autres, à l'ère du numérique. Avant d'aborder vraiment des questions concrètes d'usage, de langage, de politesse, j'ai de plus en plus l'impression que notre pays est coupé en deux, que d'un côté, il y a une France qui est sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques, de l'autre, il y a ceux qui n'y vont pas, qui n'ont même pas envie d'y aller. Et plus ça va, plus on a la sensation que ces deux France ne se comprennent pas, qu'il y a même une France qui parle un langage que l'autre ne comprend pas, mais vraiment ne comprend pas. Et on se demande même si c'est une affaire de milieux sociaux ou de génération. Je vous le dis très rapidement, ces deux France, elles sont dans ce studio, ici à France Inter. Il y a Jean-Sébastien Zanchi en face de moi et moi-même. On a le même âge, on fait le même métier, on habite la même ville. Voilà, il y en a un qui tweet, qui est sur Facebook et qui réseaute dans tous les sens, pas l'autre. Et entre nous, il y en a un qui me parle de hashtag. Et voyez, pour prendre des notes, je ne savais même pas comment l'écrire sur ma feuille hashtag. Stéphane Hugon, je me trompe ?
Oui, alors donc, vous avez raison. Là, il y a une espèce d'éclatement, hein, on le sent bien, entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors et qui n'ont pas du tout conscience d'être dehors et surtout qui se contrefichent de ce qui se passe dedans.
C'est ça.
Donc, mais on pourrait aller plus loin, on pourrait dire que non seulement il y a deux France, mais il y a une multitude de France. Puisqu'à l'intérieur même des gens qui sont dans cette grande culture du numérique, il y a des territoires. Il y a des tribus, il y a des petites communautés. Et chacun développe à la fois ses rites, ses modes d'échange, ses petites cultures, ses
subcultures. Mais alors quand même, si on revient à ces deux France, ceux qui sont dans les réseaux et ceux qui n'y sont pas et qui n'ont pas envie d'y aller, qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire, on ne peut pas ramener ça à une France des vieux et à une France des jeunes? C'est absolument impossible.
Non, pas tout à fait, parce qu'il y a un public qui est tout à fait intéressant sur les usages des outils numériques, ce sont les jeunes seniors. Mm-hmm. Les jeunes seniors, c'est les gens qui sont à la retraite ou sur le point de l'être et qui se sont investis dans les outils numériques avec toute l'énergie que leur donne l'imaginaire qui est le leur, c'est-à-dire cette génération qui a connu des grands progrès, que ce soit sociaux, politiques, économiques, et qui n'ont pas de plafond de verre, comme on dit aujourd'hui. Et du coup, ils s'investissent très largement dans les outils numériques, de même qu'ils s'investissent également dans l'associatif et dans toutes les activités qui ne sont pas exclusivement sur Internet.
Donc eux, ils cohabitent facilement avec toute la jeune génération. Et puis alors, entre les deux...
Ben voilà, entre deux.
Voilà. Alors, il y a qui entre les deux ?
Entre les deux, c'est un espèce de paradoxe, parce qu'entre les deux, il y a plutôt des gens qui ont le pouvoir, finalement, dans la société, dans les entreprises, dans les organisations, dans les familles. Et ces gens-là, qui auraient plutôt entre la fin de la trentaine et le milieu de la cinquantaine, sont des gens qui sont les plus investis dans la vie sociale. Ce sont ceux qui votent le plus, avec peut-être les plus âgés. Et paradoxalement, c'est ceux qui se trouvent dépossédés d'une culture qui est en marche, qui est en train de s'établir. Voilà. Et du coup, je vous rejoins totalement, il y a d'un côté une France qui a le pouvoir et qui est légitime, pour reprendre des vieux termes de sociologues. Et à côté de ça, dans le silence des chambres d'adolescents et des téléphones et des écrans, on a une société dont tout le monde se fichait dans un premier temps, sauf qu'une masse critique a été atteinte. Et aujourd'hui, ben voilà, il y a une vraie proposition, il y a une intelligence des réseaux, il y a une intelligence des communautés, une intelligence de ce nouveau langage, qui n'est plus seulement une manière de se différencier justement des plus âgés, mais c'est une vraie manière de faire culture, de faire sens, de faire société.
Didier Siamour, vous intervenez.
Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que dans ces différentes catégories de population, est-ce qu'il n'y a pas une évolution, un peu à l'instar du téléphone portable il y a 20 ans, où une partie de la population refusait, disait « jamais j'aurai ce boulet accroché à ma jambe et je n'aurai pas de téléphone portable, je vais être libre d'appeler et d'être appelé quand je le souhaite ». Est-ce que les réseaux sociaux ne risquent pas de connaître ce même phénomène, à savoir aujourd'hui, il y a 25 millions à peu près, je crois, de comptes ouverts en France sur Facebook. Il y en a sur Twitter, je ne sais plus, Jean-Sébastien.
Admettez que ça devient extrêmement culpabilisant.
Oui, et donc, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas être dans une pression sociale, dans quelque chose qui fait que, de toute façon, on va être obligé de tomber dedans?
Alors, oui et non. Je dirais non, parce que pendant très longtemps, on a analysé la société comme étant une société qui était construite essentiellement par deux grands modèles. Et finalement, les deux grands modèles se complétaient. On avait, pour le dire en bon français, le mainstream et l'underground. Et on avait d'un côté une société légitime.
Alors le mainstream, une sorte de culture de masse.
Et l'underground, je dirais, reprends le terme de mon ami Lionel Pourteau, les subcultures, c'est-à-dire des petites cultures qui s'élaborent dans le secret, en marge.
Des cultures alternatives.
Et qui, par après, se légitimisent et prennent la place en devenant calife à la place du calife, voilà, si je puis dire. Et donc ça, c'était une espèce de dynamique qui a bien fonctionné sur une grande partie du 19e et du 20e siècle. Et ce qui est très intéressant, et ce que révèle finalement l'Internet et les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, on a un éclatement. On n'a plus d'un côté les uns et les autres qui se regardent en chien de faïence, mais on a une multitude de petits territoires avec des usages, avec des cultures, avec des langages, avec des modes d'être ensemble qui n'ont rien à s'envier les uns les autres. Et du coup, on a plutôt un éclatement des cultures, de territoires, de tribus, comme disait Maffezoli il y a déjà une vingtaine d'années, qui sont des gens qui ne recherchent plus la légitimité dans le regard de l'autre.
Alors, autre éclatement, c'est le moi, le jeu, la façon dont je me présente et dont je me mets en scène sur le net et sur les réseaux sociaux. Voilà la grande interrogation de ceux qui n'y sont pas. Je ne vois pas l'intérêt de me raconter et de me mettre en scène sur les réseaux sociaux. Elle est là quand même, la barrière, l'incompréhension totale de ceux qui n'y vont pas.
Oui, ça c'est très vrai. C'est très vrai puisque, d'une certaine manière, on a le sentiment que sur les réseaux sociaux, les gens qui s'y adonnent, on pourrait prendre ce terme, sont aussi des gens qui prennent un malin plaisir à, disons, se construire, à s'augmenter, pour reprendre ce terme un peu à la mode.
À se mettre en scène, à se promouvoir.
À faire de soi une œuvre d'art, pour reprendre le terme philosophique.
Alors c'est quoi ? C'est des nombrils géants qui pullulent et partout en France.
Il y a plusieurs hypothèses.
Je vais faire réagir les auditeurs. Là. Stéphane Hugon.
Un peu par provocation, je dirais que ce n'est pas du tout du nombrilisme, ce n'est pas du tout du narcissisme, ce n'est pas du tout une dimension égotiste qui s'exprime quand on passe beaucoup de temps à parler de soi en ligne. Je crois que c'est plutôt quelque chose d'inverse, c'est une manière de se construire par et avec le regard des autres. Donc ce n'est pas un narcissisme individuel, c'est un narcissisme de groupe. Puisqu'à chaque fois qu'on poste un élément sur ce qu'on vient de faire, sur ce qu'on vient de manger, sur ce qu'on vient de boire, sur la musique qu'on vient écouter, c'est une manière de faire corps avec ceux qui font la même chose. Et donc ce n'est pas simplement « je me distingue de vous autres parce que j'écoute de la belle musique », mais au contraire, je fusionne avec vous autres, je fusionne avec ma tribu, avec mon groupe, parce que je célèbre ce qui nous relie.
Donc ça veut dire qu'on n'est plus rien, soit tout seul ?
Pendant 200 ans, on peut dire qu'on a construit notre identité sur le fait de se méfier de l'autre. Vous savez, moi je le vois à l'université, c'est « copie pas ». Dans le domaine, dans les cultures managériales, dans les entreprises, on recrute, on encadre, et finalement, on fait tout ça individuellement. On choisit les gens individuellement. Et alors qu'il y a d'autres pays dans lesquels ce n'est pas le cas. Moi, j'ai la chance d'enseigner un petit peu au Brésil. Et il y a énormément de notes qui sont des notes de groupe, des notes collectives. Et il y a, vous savez, dans les cultures orientales, extrêmement orientales, la question de l'individu reste une énigme. Et on n'est pas, on n'est rien sans les autres. Et je crois que si la France et l'Europe en particulier ont été le lieu de l'expression d'une subjectivité individuelle, faire de soi, prendre le dessus, si je puis dire, se distinguer. Aujourd'hui, par le biais de l'Internet, mais aussi par plein d'autres expériences sociales, on s'aperçoit qu'on a un besoin de partage, besoin de fusion.
Mais c'est une révolution extrêmement profonde, donc.
Extrêmement profonde.
Extrêmement profonde.
Extrêmement profonde. C'est peut-être la fin d'un grand bloc culturel qui s'est construit avec notre culture judéo-chrétienne, avec la modernité, de la fin du XVIIIe siècle, et avec tout ce qu'on a connu au cours du XXe, avec toutes les émancipations.
Donc c'est une révolution du sujet.
C'est une révolution du sujet.
Une révolution du sujet.
C'est la révolution.
Voilà, non mais non, c'est en effet une mutation totale, sauf que je comprends bien quand vous dites ne vous trompez pas, ne pensez pas que se mettre en scène et se promouvoir sur le net est quelque chose de très nombriliste. Au contraire, c'est la preuve que je ne peux plus exister sans les autres et sans le regard des autres. Donc ça, je comprends bien. Puis on voit bien toute cette dimension participative du net qui fait que les réactions des autres sont extrêmement importantes à la construction de ce que soi-même on dit, on écrit et on fait partager sur le net. En revanche, je ne comprends pas bien comment on peut être avec les autres quand on est en permanence branché sur une machine. Exactement.
Oui, alors là, vous avez raison, parce que c'est toujours une relation qui est un petit peu pauvre. Et c'est d'ailleurs la grande critique qu'on peut faire sur l'ensemble des relations électroniques. C'est-à-dire que c'est une communication sans le corps. Même si on voit bien que l'ensemble des échanges en ligne, sont agrémentés de petits indices qui sont des formes de corporealité. Vous savez, les petits smileys, les petits clins d'œil.
Alors, racontez-nous ce que c'est le smiley pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers.
Alors, un smiley, ça existe depuis les débuts de l'Internet, hein, depuis la fin depuis le milieu des années 90, même peut-être avant. C'est un petit signe iconique qu'on rajoute dans un texte. C'est-à-dire, c'est les fameux deux points avec une parenthèse qui fait un petit bonhomme
qui sourit,
ou un petit bonhomme qui pleure, ou un petit bonhomme qui fait un clin d'œil, etc., etc. Pourquoi on a mis ça ? Parce qu'on a senti que quand on écrivait un texte court, le texte était sujet à des mésinterprétations. Et tout ce qui est de l'ordre de l'ironie, tout ce qui est de l'ordre de la modération, ou tout ce qui est de l'ordre du métalangage...
Donc tout ce qui passe par le langage du corps,
exactement,
finalement.
Tout ce qui passe habituellement par le langage du corps, dans des textes courts, ne passait pas. Et du coup, il y avait des quiproquos. Des blagues qui finissaient par blesser, ou au contraire, des choses sérieuses qui ne l'étaient pas, etc., etc. Et du coup, pour ponctuer et pondérer le sens de ces échanges, on a eu besoin de rajouter du corps, de la corporéité, c'est-à-dire des signaux faibles, finalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, tous les ordinateurs, tous les téléphones, tous les services en ligne permettent très justement de rajouter un petit peu de lien, un petit peu de ces signaux faibles dans la relation de texte.
Vous écoutez Le Grand Bain sur France Inter.
J'aurai les yeux des marées bleues et le visage du teint pluvieux. J'aurai le cœur sur un nuage, passerai ma vie en décalage. J'aurai la tête sur l'oreiller, à peine posé les plumes aux pieds. J'abandonnerai mon âme d'avant et chercherai celle au présent. regarder plus loin qu'un avenir prisonnier en vain. Marquer son nom au bas des pages, laisser des traces au passage. Mais si le ciel sur nous s'écroule, qu'on prenne les marches ou qu'on déboule, j'arriverai toujours à tenir tête, même si j'en ai l'air. Sans peine sur les eaux, mettrai la nuit au tombeau. Que je sois seule, que je sois folle, que je ris bien ou que je grogne, il y aura toujours sur ma peau blanche mes détours et absences. Tourne encore.
Tourne encore, Salomé Leclerc sur France Inter, une jeune fille très bien partie dans la vie. Alors vous êtes dans le Grand Bain et nous consacrons ce Grand Bain à un sujet passionnant, moi et les autres. Alors moi, ce n'est pas moi, c'est nous tous. Moi et les autres à l'ère du numérique, comment nos relations les uns avec les autres ont changé à l'ère de ces nouvelles technologies. Nous avons donc avec nous Stéphane Hugon qui est sociologue et chercheur spécialisé dans ces questions. Et évidemment, on a envie de lui poser une question manifestement très difficile à résoudre, bah celle de la poule et de l'œuf. Il fallait bien qu'on y arrive. Quand on a un universitaire sous la main, on ne peut pas s'en priver. Donc, qui vient en premier ? Est-ce que ce sont ces innovations technologiques qui ont profondément modifié nos rapports les uns les autres ? Est-ce que c'est nos rapports les uns aux autres qui s'étaient suffisamment transformés pour que ces outils technologiques... Et du succès, finalement.
Oui, alors c'est une très belle question. C'est une vraie très belle question pour les universitaires. Moi, je vais avoir...
Et pour les auditeurs, hein, ça peut leur faire la journée, la semaine, la poule et l'œuf.
La poule et l'œuf. En l'occurrence, moi, je le comprends comme étant, est-ce que c'est les usages qui changent les technologies ou est-ce que c'est les technologies qui structurent les usages ? Qui est un peu la question, une question obsessionnelle qui tourne dans mon labo à OCEAC depuis quelques années. Alors, nous, on a décidé, on a un parti pris qui est celui des sciences humaines, c'est-à-dire de placer l'humain avant les objets techniques, non pas par position éthique, mais par constat également et par observation. Et on s'est aperçu que pour bien comprendre, dans le cas de l'Internet, par exemple, si c'était l'Internet qui nous avait obligés d'une certaine manière et conduits à faire des choses qu'on faisait entrer dans les pieds, ou au contraire, est-ce que c'est la société qui aurait changé, et ce sera ma position, est-ce que ce sont les imaginaires sociaux, c'est-à-dire la manière dont les gens construisent leur identité, on l'a évoqué un petit peu, la manière dont les gens établissent de la confiance dans une relation, la manière dont les gens font territoire, c'est-à-dire qu'ils s'installent quelque part pour y donner du sens. Et c'est parce que tout ça a changé que finalement l'Internet, qui était l'outil le moins mauvais possible à disposition, s'est imposé comme étant celui qui allait être l'objet d'une appropriation sociale.
Donc il y a eu une révolution sociale ou sociétale ou sociologique, vous me direz quel terme vous préférez, il y a eu une révolution sociale avant une révolution technologique.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est parce que la société a changé, parce que les jeunes générations apportent ces transformations, ils sont porteurs d'un nouvel être ensemble, une nouvelle manière de faire corps avec les autres. Il réinvente à la fois la confiance, l'autorité, l'expertise.
Alors c'est la fameuse horizontalité dont on parle souvent à propos de la génération Y.
Oui, notamment. Alors l'horizontalité, c'est le tutoiement généralisé, c'est le problème de légitimité de tous les chefs, de tous les pères. Dans l'entreprise, dans la famille, dans l'institution, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a des solidarités beaucoup plus exemplaristes, si je puis dire, c'est-à-dire par l'exemple, je me rapproche des autres. Et l'idée que les gens se structurent par communauté, par tribu, et qu'ils ont beaucoup plus confiance dans des gens qui ont la même expérience qu'eux plutôt que celui qui sait. Vous savez, il y a cette relation du sachant à l'apprenant, qui était la relation pédagogique, ouais, qu'on connaît bien en Occident, qui structure à la fois, je le disais, nos familles, nos systèmes politiques, nos systèmes syndicaux, nos entreprises, etc. Il y a celui qui sait et ceux qui se taisent. Ouais. C'est aussi un système média, hein, c'est le système broadcast, si je puis dire. Et à côté de ça, on a un autre système qui existe depuis très longtemps, qui est un système plus horizontal, un système d'initiation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sachants et d'apprenants, mais il y a deux personnes qui échangent dans l'expérience, dans et par l'expérience, et qui construisent ensemble. Construire ensemble, c'est juste le 2.0, si je puis dire.
Voilà, c'est le web 2.0.
C'est le web 2.0, c'est-à-dire c'est le système wiki, le système contributif, les droits d'écriture, etc., etc. Et c'est aussi une culture managériale dans les entreprises, une culture politique de la consultation, etc., etc. C'est pour ça que l'Internet est intéressant aujourd'hui, puisqu'il est le révélateur d'une société qui préalablement aura
changé.
Et non
pas l'instigateur.
Exactement. Et un petit indice qui nous permet de savoir que c'est plutôt la poule que l'œuf,
Ou l'œuf que la poule.
Ou l'œuf que la poule, en fonction du sens ou de la place qu'on a dans la table. Souvenez-vous que dans la deuxième partie des années 90, l'Internet était en train de s'établir comme étant un outil qui commençait à avoir le succès. Les gens qui ont investi dans l'Internet à ce moment-là sont plutôt des gens qui venaient des médias. Et ils ont projeté sur cette technologie un modèle qui était classique, c'est-à-dire le modèle qui était légitime pour eux. Et ils ont sous-estimé très probablement la relation de personne à personne, si je puis dire, d'auditeur à auditeur, ce que vous faites à Internet depuis très longtemps déjà. Mais ce que les gens d'Internet, les gens qui investissaient dans Internet n'avaient pas compris, c'est qu'ils pensaient qu'il n'y aurait que un flux descendant. Et le A de ADSL, il signifie asymétrique. C'est-à-dire qu'on peut plus facilement descendre des données qu'en remonter. On peut plus facilement télécharger qu'en charger, si je puis dire. Et la surprise des années 97-98, qui n'est pas neutre parce qu'elle mène quand même à un krach boursier, ce qui n'est pas rien. C'est un réajustement après la surprise de l'ensemble des services qui permettaient de valoriser cette relation de personne à personne. Donc, cette relation
Le krach boursier dont vous parlez, c'est l'éclatement de la bulle Internet au tout début des années 2000.
Exactement.
C'est ça, 99-2000, où tout un tas de start-up avaient été valorisées de manière vraiment défrayant totalement toutes les normes et tous les critères à l'époque. Et puis, ces valeurs se sont effondrées d'un seul coup. Donc, on a changé à ce moment-là le modèle de l'Internet.
Et du coup, on s'est réadapté à la réalité de ce qui s'exprimait sur Internet. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, ce crack et ce réajustement, puisque si on avait privilégié dans un premier temps la relation de personnes à disque dur, c'est-à-dire des personnes qui recherchent des informations, aujourd'hui, le deuxième modèle qui a donné le web 2.0, c'est des relations de personne à personne, par le biais parfois d'informations.
Alors, dans ces relations de personne à personne, parfois, on s'exprime en 140 signes, c'est ça, Jean-Sébastien ?
C'est ça, pas plus.
Voilà. Alors voilà, on continue dans le grand bain. On a toujours cette idée de faire partager à l'immense majorité de nos auditeurs, dont je fais partie, hein, je le répète, qui ne tweetent pas. Et ben voilà, on avait envie de vous faire partager ce qui se passe sur Twitter. Donc, Jean-Sébastien, toutes les semaines, vient nous raconter des histoires de tweets qui ont fait date. Happy Father Day, joyeuse fête des pères. J'imagine que vous en avez vu passer des centaines de millions dans ce jour-là sur Twitter.
Oui, il y en a eu beaucoup, Sonia, le 17 juin dernier, donc, ce qui était la fête des pères. Mais ce tweet, en fait, est un peu tronqué, puisque c'est seulement le début du tweet, l'intégralité, dit exactement « Happy Father's Day ». Or, as they call it in my family, Happy Brothers in Law's Day. Donc, joyeuse fête des pères. Ouais, c'est pas terrible. Joyeuse fête des pères, ou comme ils l'appellent dans ma famille, joyeuse fête des beaux-frères. Donc, ce tweet qui est un peu mystérieux,
ouais,
c'est l'œuvre de Ronan Farrow, qui est en fait le fils de Mia Farrow et de Woody Allen. C'est difficile à comprendre peut-être au premier abord, mais en fait, si on se souvient bien...
Et il s'appelle
bien,
Farrow comme sa maman.
Il a pris le nom de sa mère, effectivement.
C'est ça, c'est là où ça commence bien les histoires de famille chez les Allen, Farrow.
Exactement, on va comprendre pourquoi, parce qu'effectivement, au début des années 80, 1, Mia Farrow et Woody Allen se rencontrent. Mia Farrow a déjà une fille adoptive qui s'appelle Sunny Previn, qu'elle a adoptée avec son ancien compagnon qui est le chef d'orchestre André Previn. Quand Mia Farrow et Woody Allen se mettent ensemble, 7 ans après, en 87, ils ont un enfant, Ronan Farrow. Tout se passe comme une famille recomposée, classique, actuellement. Voilà.
Bon, on est quand même à Manhattan chez les Allen, voilà, mais à part ça, tout va bien.
Mais bon, en 92, Mia Farrow découvre quand même qu'il y a une histoire bizarre entre Woody Allen et sa fille adoptive, Sunny, c'est-à-dire qu'ils seraient en couple et ils auraient une relation ensemble. Donc effectivement, Mia Farrow, complètement refroidie par l'histoire, quitte sur le champ Woody Allen. Il y a une action en justice qui a eu lieu. Depuis d'ailleurs, Woody Allen n'avait plus le droit de voir ses enfants depuis cette époque-là. Et puis ensuite, Woody Allen se marie avec Sunny.
Avec Sunny.
Ils sont ensemble depuis l'époque. Voilà, cet épisode a largement marqué la vie de la famille. Donc du coup, Ronan Farrow fait cette espèce de blague à l'humour très très noir en juin dernier.
Oui.
Donc puisqu'il considère que son père est en fait son beau-frère.
Son beau-frère.
Ce qui est juste légalement, puisque effectivement, il est marié avec sa sœur adoptive, mais c'est sa sœur quand même.
Mais c'est sa sœur quand même, voilà. Exactement.
Donc, on aurait pu penser que la blague allait être de courte durée, une blague un peu lancée comme ça à l'emporte-pièce sur Twitter. Mais c'était sans compter que Ronan Farrow a sa petite réputation aux États-Unis, puisqu'en fait, c'est le conseiller à la jeunesse auprès de Hillary Clinton. C'est un avocat assez reconnu là-bas. Et il a surtout 28 000 personnes qui le suivent sur Twitter. Donc,
28 000 voilà. followers,
c'est
comme
ça,
on dit.
28 000 followers.
C'est énorme.
C'est quand même, ça commence à faire beaucoup. Donc forcément, l'effet boule de neige est lancé. Il y a 2300 retweets de ce tweet-là. Donc, c'est-à-dire que c'est 2300 personnes qui vont retransmettre ce message-là. Donc on imagine encore l'effet boule de neige derrière. Puis en plus, Mia Farrow, donc la mère de Ronan Farrow, qui a toujours un peu ressentiment manifestement contre Woody Allen, retweet ce message-là en rajoutant une espèce de boom vengeur juste devant, en disant voilà, ça c'est pour toi, c'est bien fait pour toi, Woody.
C'est-à-dire qu'elle a retweeté, elle a fait passer le message, elle a fait tourner le message et elle a rajouté boom.
Boom, voilà, comme si c'était la blague qui tombait à point contre son ex-mari. Quoi.
Avouez Stéphane Hugon que c'est quand même un moyen d'expression relativement limité, boum, vous nous parliez des smileys.
Et la réduction du sens.
Oui, c'est réduction du sens.
Il n'y a que 140 signes, on ne peut pas faire beaucoup plus.
Boum, bon bref, donc on continue.
Donc l'effet boule de neige la continue, puisqu'effectivement, Mia Farrow, elle a 50 000 followers. Donc les 28 000 de son fils, les 50 000 de Mia Farrow, 3200 tweets à partir du moment où Mia Farrow a retweeté ça. Voilà, là, c'est le déferlement du coup dans les médias. Quand on fait une recherche là, sur ce sujet-là, on s'aperçoit qu'il y a plus de 200 articles qui en parlent.
Dans les médias américains.
Ouais, tout à fait. Aussi bien Washington Post que la NBC ont repris ce tweet et cette histoire-là. On se rend compte que 20 ans après, justement, le scandale de cette histoire continue d'une manière différente, puisque ça avait fait les scandales de la presse à l'époque. Maintenant, ça fait scandale sur les réseaux sociaux. Et justement, à cette occasion-là, Woody Allen n'a pas réagi par rapport à ce tweet-là.
Vous voulez dire qu'il n'a pas retweeté ? Il n'a pas de badaboum voilà. Ou de rien.
Rien du tout. même pas dans la presse de manière plus traditionnelle. Mais bon, malgré tout, il dit que lui, il avait réagi l'année dernière à ce sujet-là, quand on lui avait posé la question. Il avait dit que lui était tombé amoureux de cette fille et qu'il l'avait épousée. Et que dans un sens, ce scandale lui plaît, puisque lorsqu'il mourra, j'aimerais pouvoir dire que j'aurais eu au moins un vrai gros scandale dans ma vie, dit-il.
Il l'a eu, et bien avant Twitter, Stéphane Hugon, c'est là où on voit quand même que la barrière du privé et du public avec Twitter est littéralement pulvérisée.
Littéralement pulvérisée, oui, tout à fait. Je repensais pendant que Jean-Sébastien racontait cette histoire à ce que me disait le maître et l'ami Michel Maffezoli. Il proposait de substituer le mot sociologie par épidémiologie.
Pourquoi ?
Parce que finalement, les modes relationnels aujourd'hui, les structures d'échange, prennent un peu la forme de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire par contact, par viralité, par épidémie, comme ça, au départ quelques tweets, et puis finalement ça reboucle, etc. Il y a des modèles d'influence aujourd'hui qui sont radicalement différents, et là on peut dire que, d'une certaine manière, l'ensemble des rumeurs et l'ensemble des légendes urbaines, hein, comme on le dit parfois, disons, prennent cette espèce de géographie, voilà, qui est très étrange et qui est, à mon avis, très contemporaine.
Didier Sciamour nous propose tous les lundis son petit journal des médias. Alors, la semaine a été mouvementée.
Oui, on peut dire ça.
Et pas que sur Twitter, dans la vraie vie aussi. Par quoi on commence?
On va commencer par Orange. Elle a fait le dernier rebondissement, le dernier événement. En tout cas, il y aura encore des rebondissements cette semaine, puisque le PDG d'Orange, Stéphane Richard, va devoir aller rencontrer Fleur Pellerin. Fleur Pellerin, c'est la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, dont on a pu lire une interview hier dans le journal du dimanche, d'ailleurs, où elle mettait un peu les points sur les i, on va dire. Et donc, il va falloir qu'il vienne s'expliquer sur cette panne logicielle dont on a largement parlé.
De vendredi.
Encore, voilà, de vendredi, sur le réseau Orange, qui a empêché quand même 26 millions au moins d'abonnés de pouvoir utiliser leur téléphone, d'envoyer des SMS et de surfer sur Internet. Et ça, pendant une bonne douzaine d'heures, à partir de 15h l'après-midi. Quand on sait aujourd'hui l'importance que ça prend, le téléphone portable,
c'est
les
ça,
relations...
ce que j'allais dire, Stéphane Hugon, vous êtes pour la mise en place de cellules d'aide psychologique dans ces cas-là.
Ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, on va rechercher pratiquement maintenant ces zones de silence, ces moments où ça ne bip pas, où ça ne sonne pas, où il n'y a pas de retweet, toutes ces choses-là. Et peut-être que c'est aussi une figure du luxe que de retrouver un moment de quiétude, de sérénité.
De se couper un peu, de se couper en tout cas de ce mode de relation. Non, mais c'est assez intéressant. En effet, en tout cas, il faut quand même savoir que vendredi, c'était une journée importante. C'était des jours des vacances, les grands départs,
les résultats du bac.
Donc on imagine tous ces abonnés à Orange qui tout d'un coup ne pouvaient plus utiliser. Il a fallu peut-être utiliser le téléphone traditionnel. Il a fallu aller piquer le téléphone de son portable, de son copain qui est chez un autre opérateur. Enfin, écoutez, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on voit, et rappelez-vous, au mois d'octobre dernier, en 2011, c'est les possesseurs de BlackBerry qui avaient eu un gros souci aussi, où pendant 48 heures, on ne pouvait plus utiliser son BlackBerry et ça avait même eu des incidences sur, je crois, le cours boursier de la société canadienne qui fournit les BlackBerry.
Qui de toute façon est en mauvaise posture.
Et qui en plus est en mauvaise posture pour ne rien arranger. Ouais. Et on voit en tout cas qu'il y a eu un certain nombre de faits. Free qui s'est lancé sur le marché au mois de janvier. Certes, aujourd'hui, a complètement explosé ses objectifs et a plus de 3,5 millions d'abonnés alors qu'ils en voulaient 3 millions au départ.
Mais l'argument d'Orange, c'est quand même la qualité du réseau
et
face à ses concurrents.
Complètement. Et là, en tout cas, on voit bien que ça affecte complètement aujourd'hui leur notoriété, leur légitimité.
Et leur positionnement sur le marché.
Sur leur positionnement. Mais regardez Free, qui certes a battu ses objectifs, il y a eu quand même pas mal de bugs au départ, oui, à partir du mois de février, pendant un mois. Et ça, il y a eu énormément de gens qui s'étaient abonnés, qui ont retourné après, qui se sont désengagés dans les semaines qui ont suivi, en disant non, ça ne tient pas la route. Donc on voit bien que ça peut avoir
de grosses
conséquences.
Il n'y avait peut-être pas la même antériorité, pas la même confiance vis-à-vis d'un opérateur. Alors, l'autre bug, celui-là, dans des médias totalement archaïques, la presse
écrite. On va dire
écrite.
Les médias historiques, on va dire Sonia, pas archaïque, historique.
Bienvenue chez les dinosaures, bienvenue chez les lecteurs de papier.
Bah, écoutez, quand on est papivore comme moi, en tout cas,
on
est resté sur sa fin jeudi dernier, puisqu'il n'y avait pas de quotidien dans les kiosques. Pas de quotidiens nationaux et dans pas mal de régions aussi des problèmes de distribution. Alors, les gagnants dans l'histoire, c'est des gens comme Jean-Sébastien ne consultent la presse que sur leur iPad, que sur les tablettes et donc qui ont pu consulter en PDF ou sur les versions électroniques les journaux. Mais en tout cas, dans les kiosques.
Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ?
Alors, c'est le Filpac-CGT. Filpac-CGT, c'est une branche du syndicat du livre qui avait lancé ce mot d'ordre de grève pour, on va dire, lancer un cri d'alarme sur la situation sociale dans la presse. Hein. Depuis quelques années, on fait le parallèle, on dit que la presse connaît ce qu'a connu la sidérurgie il y a une trentaine d'années, et on voit qu'il y a une multiplication des plans sociaux. Vous avez vu cette année la Tribune, France Soir qui ont fermé leurs portes, le distributeur de presse Prestalis qui devrait supprimer 1000 postes sur les 2500 qui restent dans ce système de distribution de la presse qui est quand même indispensable aujourd'hui pour alimenter les réseaux.
C'est la colonne vertébrale
complètement
de la presse écrite en France.
Et puis, on voit que dans les groupes de presse de quotidien régional, Grosse difficulté également avec le groupe R100 Média qui est exsangue et qui essaie de se débarrasser de Paris-Normandie. Mais il y a
un auditeur
lundi dernier nous a envoyé un message en signalant, en rappelant la situation catastrophique, en disant peut-être que ce journal va fermer à la fin juillet.
Paris-Normandie, grosse inquiétude.
Donc il y a un plan de reprise qui était en train de s'esquisser, mais qui obligerait à supprimer quand même encore pratiquement un tiers des postes. Et puis le pôle aussi Champagne-Ardenne, qui appartenait au groupe R100 Média, qui était en négociation avec l'éditeur belge Rossel pour essayer de s'assurer sa survie. Et pour l'instant, les deux parties ont abandonné toute négociation.
Une année noire pour les rotatives. Ouais.
Allez, on fait un petit
drôle
pour...
dans les deux cas, je me permets d'intervenir, mais dans les deux cas, c'est très intéressant de voir à quel point la vie sociale des personnes s'inscrit dans une suite de petits rites du quotidien. Le nombre de fois qu'on regarde un téléphone portable pour savoir quel tweet on a reçu. Chaque petit matin, on prend un café où on feuillette un quotidien papier. Moi, j'ai aussi ce rite-là. Et quand il manque une panne de téléphone, il manque un journal un jour, d'un seul coup, tout s'effondre. Ouais. C'est intéressant parce que ça montre à quel point il y a un rapport à l'ensemble de ces médias qui nous tiennent, finalement, vivants, et qui sont le lien avec les autres, comment il y a presque une disproportion et une surattente de la part des lecteurs, et des lecteurs en ligne ou sur le papier, par rapport à ces supports. Je dirais même qu'il y a presque une disproportion, une espèce de dépendance par rapport à ces supports, peut-être pas tant sur le fond que sur la forme, sur le geste quotidien.
Et on ne parle pas de la radio qui est qualifiée du média d'habitude par excellence.
Par excellence. Allez, juste un petit coup d'œil sur le beat de la semaine.
C'est beau, hein?
Oh oui.
Alors,
c'est quoi le beat de la semaine?
C'était mercredi dernier sur TF1, la nouvelle série américaine qui s'appelle Smash, qui raconte l'histoire d'une comédie musicale qui se monte aux États-Unis autour de la vie de Marilyn. Et donc, c'était la série américaine produite quand même par Steven Spielberg. Et ça a été le fiasco total, diffusé en prime time sur TF1. Il y a eu en moyenne 2 300 000 téléspectateurs par épisode. Il y a eu 3 épisodes de suite qui ont été diffusés. TF1 s'est classé derrière France 2, M6 et France 3. Oui. Donc,
quand TF1 se classe derrière France 3, c'est avec, vraiment, ça va vraiment
très très mal. Alors, ils corrigent le tir puisque dès mercredi prochain, ce sera diffusé en deuxième partie de soirée.
Vous nous rassurez. Didier Siamour, on vous retrouve lundi, Jean-Sébastien aussi, mais on vous lit demain dans le quotidien gratuit Métro. Vous signez la page Nouvelle Technologie. Stéphane Hugon, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé un peu avec nous de votre science. Et puis tout doucement, on se rapproche de l'heure délicieuse. On va écouter JB Pontalis. Jack White sur France Inter, ça bastonne comme on dit, on est presque à la fin du Grand Bain. Il est temps de prendre justement du champ et de prendre un petit peu le large pour écouter J.B. Pontalis, philosophe et psychanalyste, né en 1924. Il nous détaille ses souvenirs et ses rencontres.
Pas de visage, rien qu'une voix et une écoute.
J.B. Pontalis, oui. Le lycée est le lieu privilégié des rencontres entre élèves, mais aussi dans les relations qui se créent parfois entre les professeurs et les élèves. Il y a eu Sartre, mais il y a eu aussi Monsieur Laurent.
Oui, oui, vous voulez que je revienne encore sur le lycée? Alors là, je ne vais pas me laisser faire prier. Vous voyez, je vous dis d'abord que ce que j'ai beaucoup apprécié dans ces années de lycée, dont je vous ai dit que je les avais tant aimées, c'est l'absence de porosité entre la vie à la maison et la vie scolaire. Là, je me souviens à l'instant de la répartie que s'attira un de mes camarades qui était un peu en retard, qui est arrivé un peu en retard en classe, et qui raconta, en guise d'excuse, qu'il avait dû accompagner sa mère chez le médecin. Et la réponse n'a pas tardé, elle fut cinglante, du professeur, monsieur Laurent. Je ne vous demande pas de détails sur votre vie privée. Bon. Or, il se trouve qu'un jour, le même M. Laurent m'invite chez lui et il me présente sa femme, une femme peut-être un peu grasse, disons. Elle porte un tablier de cuisine, ça sentait un peu le graillon. Et cette femme me dit, croyant me faire plaisir, mon époux, elle disait mon époux, m'a lu votre dissertation. J'aurais pu être flatté, mais je me suis dit au contraire que ça ne la regardait pas. Cette dissertation était destinée à Monsieur Laurent, pas à son épouse. Donc j'ai quitté leur appartement, mal à l'aise. Je ne parvenais pas à distinguer les deux images que j'avais de mon professeur, qui était mon professeur préféré. L'image qu'il présentait dans sa classe et celle que je venais de découvrir dans son appartement. Il nous avait parlé si bien, de façon si belle, des amours de Ronsard. Il m'avait fait tant aimer ce poète que j'imaginais ce cher monsieur Laurent, comme moi, épris de Cassandre, de Marie, d'Hélène. Je l'imaginais s'exclamer comme Ronsard, « Amour, amour, que ma maîtresse est belle ». Alors je me suis dit que je n'aurais jamais dû accepter de le rencontrer dans son appartement de l'avenue des Ternes, un appartement effectivement très terne. Jamais je n'aurais dû, comme il disait, connaître les détails de sa vie privée.
Les propos de J.B. Pontalis étaient recueillis par Lucie Hakoun. Ainsi s'achève Le Grand Bain. Demain, on vous retrouve à la même heure. Ne manquez pas ça, on va plonger dans les arcanes de la mafia.